tout au fond du système solaire, en quelque sorte, on va retrouver donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les comètes, qui sont des astres, des objets essentiellement faits de glace, puisque si on les trouve loin du Soleil, ce sont des endroits où il fait très froid, et donc on va avoir des objets qui seront glacés, alors des mélanges de glace et de roche, hein, dont les proportions ne sont pas forcément certaines, mais des objets qui sont quand même constitués en grande partie de glace. Alors tout d'abord, il est important de préciser que comète et étoile filante, ça n'est absolument pas la même chose. Souvent on fait la confusion entre comète et étoile filante parce que, en gros, quand on représente ça schématiquement, on fait un petit machin brillant et puis on fait une traînée derrière. Et souvent les deux sont représentés de la même façon. Or, ça n'a rien à voir. Une étoile filante, est-ce que vous savez ce que c'est en réalité ?
La poussière.
La poussière des météorites, voilà. Ce sont des petits cailloux, alors généralement 90% des météorites, ce sont des cailloux qui sont entre la taille d'un grain de sable et la taille d'un petit ballon, d'accord, qui viennent à très grande vitesse rencontrer la Terre. Très grande vitesse, c'est 50 000, 100 000 km/h. C'est des vitesses vraiment très importantes. Et en s'écrasant sur Terre, ça va traverser notre
atmosphère,
exactement. Et les frottements avec l'atmosphère, la compression du gaz, tout ça, ça va provoquer un échauffement qui va faire que la météorite va briller. Plutôt l'air autour va briller tellement il fait chaud. Et ça va généralement provoquer la désintégration de la météorite. Une comète, en revanche, c'est totalement différent. Déjà, une comète dans le ciel, ça ne va pas passer en une seconde, même si on a une impression de vitesse à cause de cette traînée lumineuse. Donc une comète, c'est un objet qui est en orbite autour du Soleil. Mais comme ça vient de très très loin, ça a une orbite très allongée, on dit une orbite elliptique, très elliptique. Elliptique, ça veut dire de forme ovale. Les planètes, elles ont globalement des orbites qui sont à peu près rondes, mais les comètes ont des orbites très allongées. Certaines font le tour du Soleil en 6 ans, ça va, c'est relativement court. Celle-là, par exemple, la comète Albov, qui a été visible en France au printemps 1997, vous n'êtes pas prêt de la revoir. Parce qu'elle fait le tour du Soleil en à peu près 3000 ans.
Donc je suis Michael Wilmar, je suis médiateur scientifique au sein de l'association À ciel ouvert, la ferme des étoiles. Et donc j'interviens ici dans le cadre de la fête de la science cette année qui arrive à Auch. Donc pour faire la vulgarisation autour de l'astronomie. Et le thème qu'on a retenu aujourd'hui là, pour cet atelier, c'est donc les comètes messagères du cosmos. Pour faire un peu le bilan sur ce que sont ces objets dans le système solaire et ce qu'elles peuvent nous apprendre et coller finalement avec l'actualité, puisque c'est également faire un bilan de la mission Rosetta qui s'est achevée donc le 30 septembre dernier, donc cette mission européenne qui justement avait pour but d'étudier la comète Chury qui a donc été étudiée pendant 2 ans.
Et donc, si on veut savoir réellement ce qu'il y a sur ce noyau de comète, de quoi il est fait, etc., ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Savoir à quoi il ressemble et de quoi il est fait, ce noyau cométaire. Des idées, comment ?
Récupérer du gaz.
Récupérer du gaz, oui, on pourrait effectivement prélever des échantillons de la queue et de poussière et de gaz. Mais si on veut savoir vraiment à quoi il ressemble, on aura là, si c'est des échantillons de gaz, on n'aura que de petits échantillons. Imaginez là, je reproduis dans la salle un énorme brouillard et je vous dis, il y a un trésor au milieu. Comment vous faites pour savoir à quoi ressemble le trésor ? On va le chercher. Et donc là, c'est à peu près la même chose. Si on veut savoir à quoi ressemble le noyau cométaire, eh ben on va le chercher. Enfin, on ne va pas le ramener en réalité, mais on va aller le voir, on va aller sur place. Et pour ça, on va créer une mission spatiale. Et c'est ce qu'on appelle donc la mission Rosetta. Le projet est né dans les années 90.
Rosetta a passé plus de 2 ans près de la comète de 67P Churyumov-Gerasimenko. Mais son séjour auprès d'elle touche à sa fin. Elle y a réalisé des millions de mesures et a fini par connaître parfaitement la comète. Elle a pris des photos dans tous les angles, collecté des grains de poussière et prélevé des échantillons de gaz atmosphérique, notamment de la vapeur d'eau bien différente de celle sur Terre. Elle a étudié la gravité de la comète, le champ magnétique environnant et les interactions de la comète avec le vent solaire. Comme les comètes sont formées de substances poussiéreuses et glaciales issues de la jeunesse des planètes, Elles contiennent les échantillons les plus anciens et les mieux préservés datant de la naissance de notre système solaire. Rosetta a même fait des découvertes encore plus remarquables. Elle a trouvé sur la comète des ingrédients essentiels à l'origine de la vie sur Terre. Les comètes ont peut-être ensemencé la Terre avec ces ingrédients alors que notre planète était encore très jeune. Les scientifiques vont analyser les découvertes de Rosetta pendant plusieurs décennies. Sa mission a été couronnée de réussite. Après une longue recherche, elle avait même réussi à retrouver Philae, endormi dans un coin sombre et étrange de la comète. Mais à nouveau loin du Soleil, Rosetta ne pouvait plus recevoir assez d'énergie pour poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. Elle aurait pu à nouveau se rendormir, mais elle a choisi un ultime défi, encore plus ambitieux. Elle allait faire comme Philae et se poser sur la surface de la comète. Elle allait enfin pouvoir voir de plus près la comète qu'elle observait à distance depuis 2 ans. Mais aussi collecter des échantillons de gaz là où elle ne s'était encore jamais aventurée. Bien que son incroyable voyage soit presque terminé, elle savait, tout comme ses prédécesseurs, que l'héritage de sa mission resterait. Elle s'estimait heureuse d'avoir autant d'amis et espérait qu'ils penseraient toujours à elle et à Philae de temps en temps.
L'atelier, c'était la vie dans l'espace. On a vu comment est-ce que les astronautes se nourrissaient, comment est-ce qu'ils se brossaient les dents, comment est-ce qu'ils géraient l'eau et la vie entre eux, en fait. Et donc, on a appris que le repas, c'était le plus important. C'était le seul moment d'échange qu'ils avaient.
Merdoche, Franck Montaugé.
Alors c'est plus le sénateur qui parle. J'étais il y a 2 jours au Cercle de l'Industrie à Paris. C'est une instance qui regroupe des représentants de l'industrie française et qui permet d'instaurer un débat avec les parlementaires, députés ou sénateurs. Et les représentants de l'industrie française nous ont dit qu'il y avait un problème majeur qui était qu'on trouvait de moins en moins de jeunes faisant le choix de carrière scientifique et technique, faisant le choix de devenir ingénieur. Et notre industrie manque aujourd'hui de scientifiques et d'ingénieurs de très haut niveau. C'est un enjeu national qui est directement lié à la question de la réindustrialisation de notre pays, en particulier dans un monde qui se numérise, qui se robotise, où l'intelligence artificielle et toutes ces techniques-là vont prendre une place majeure. Donc voilà, faire ce que nous faisons ici à Auch et sur le Grand Auch et dans le Gers, avec une association comme celle de M. Monflier, avec tous les animateurs, les bénévoles, nous permet de contribuer justement, entre autres, à la réindustrialisation à terme de notre pays. Et moi, j'en suis très heureux. Je considère que c'est de notre responsabilité que d'avoir cette action-là auprès des jeunes et dans leur intérêt premier. Moi, j'ai toujours pensé que tout ce qui relevait du scientifique pouvait s'acquérir et on pouvait en donner le goût et en même temps que du plaisir. Voilà, je crois que le plaisir, il est important dans le rapport à la science, dans le rapport à la technique. Et donc la pédagogie a une grande place. Donc les bénévoles en particulier, souvent retraités d'enseignement, qui nous aident, qui investissent, forment aussi nos éducateurs. Et c'est une manière pour rendre la science accessible et procurer du plaisir avec la science et la technique.
On vous a vu jouer à des jeux mathématiques avec les élèves de seconde de Beaulieu, le lycée agricole. Qu'est-ce que vous en retirez de cette petite expérience très courte ?
Agréable, avec l'inquiétude, je plaisante un peu, de se dire qu'on ne va pas y arriver. Mais non, j'ai les neurones qui fonctionnent encore à peu près correctement. J'y suis arrivé, même si ça a pris un peu de temps. Non, mais c'est du plaisir, c'est ce que je disais. C'est une façon de travailler intellectuellement tout en se faisant plaisir. Donc c'est un rapport à la science, au raisonnement, à la logique mathématique qui est intéressant et qu'il faut privilégier. C'est très très important. Et c'est important que les jeunes, les plus jeunes, se confrontent à ce type d'exercice ludique.
Vous étiez très concentrés tous.
Ah oui, ils étaient concentrés, oui. Ben, y a, chaque fois, il y a un challenge. Il y a un challenge personnel, il y a un challenge avec les autres. Voilà, il y a un côté compétition aussi. Hein. Mais voilà, le rapport à la science, c'est aussi ça, c'est un peu ça, quoi. Il faut, voilà, il faut faire preuve de persévérance. On se bat avec soi-même, on se bat avec voilà, l'exercice qui nous est soumis. Voilà, c'est sympa, quoi. C'est sympa.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc là, c'est une trame qui passe, c'est des données numériques, automatiques, qui me permet, donc je fais rentrer l'audio fréquence dans le micro du PC, et un petit logiciel décode le signal. Il me le transforme en longitude, en latitude et en vitesse, et c'est reporté sur une carte. Donc au fur et à mesure que le radioamateur se déplace, je vois sa position. Je suis Christian Gérard, le président des radioamateurs du GERS, et mon indicatif c'est F8BMG. À longue distance, la parole se détériore et est difficilement compréhensible. Le signal morse, même détérioré, est toujours compréhensible. Alors, il y a un radioamateur qui a créé un petit logiciel et qui permet de s'entraîner à la télégraphie.